J'écris avec l'intention, premièrement, de divertir, avant tout, de divertir. Parce que ça commence par ça.
Frédéric Dard.
Ne jamais emmerder les gens. J'écris. Je me goinfre d'écriture parce que j'aime ça. Et tenez-vous bien, dès que j'ai fini d'écrire, je pense à la suite de ce que j'écris, bien sûr, mais aussi à la suite de ce que j'écrirai après.
Ça peut pas faire de mal.
Cette boulimie, c'est ce qui a tout fait, quoi. J'ai tellement envie d'écrire que j'ai pas eu envie jamais ni de me saouler la gueule, ni de me droguer, ni de faire des... Moi, je trouve que, je sais pas, le travail et l'amour, il y a que ça. Travailler et baiser, ce sont les deux pôles de l'existence d'un homme digne de ce nom, à mon avis. Ouais. Je le dis peut-être crûment, mais vous laisserez un blanc.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Ça, Antonio, je m'incline. Vous venez de hisser l'incompétence au rang d'art majeur, faisant de vous en une seule opération le plus grand génie de la bavure. Et Dieu sait que la concurrence est rude. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense, patron, que vous me faites chier. Antonio, vous avez confirmé, ça va pas la tête.
C'est pas la tête, c'est les burnes. Vous me les brisez.
Si un jour votre grand-mère vous demande le nom du type le plus malin de la Terre, dites-lui sans hésiter que le gars en question s'appelle San Antonio. Et vous pourrez parier une douzaine de couleuvres contre le dôme des Invalides que vous avez mis dans le mille. Parce que je peux vous garantir que la chose est exacte, étant donné que le garçon en question, c'est moi. Ça vous surprend, hein? Et d'abord, vous vous dites, pourquoi se fait-il appeler San Antonio? Eh bien, je vais vous répondre. Lorsqu'un type dans mon genre écrit ses mémoires, après avoir exercé pendant 15 ans le plus dangereux de tous les métiers, c'est qu'il en a gros comme l'Himalaya à raconter. En conséquence, il ne peut s'offrir le luxe de faire clicher son bulletin de naissance sur la page de couverture. Vous saisissez. Bon, maintenant je vais vous parler de moi. Et vous donner des détails indispensables sur ma petite personne. Je dois vous dire pour commencer que si je ne suis pas le sosie d'Apollon, je n'évoque pas non plus un tableau de Picasso. Je ne me souviens pas du nom du bonhomme qui a dit que la beauté ne se mangeait pas en salade, mais ce type-là n'avait pas du ciment armé à la place du cerveau. Il avait extraordinairement raison, et les femmes ne vous diront pas le contraire. Essayez de leur présenter sur une assiette un petit freluquet bien frisoté, avec à côté un gaillard de ma trempe. Et vous verrez si ce n'est pas San Antonio qu'elles choisiront, malgré sa tête de bagarreur et ses façons brusques. Je connais à fond la question. Sur les femmes, je pourrais vous en écrire si long qu'un rouleau de papier peint ne suffirait pas. Mais je ne suis pas de l'Académie française et le blablabla psychologique n'est pas mon fort. Il y a des individus qui sont marqués par le destin. J'en connais un, dans l'intimité. Je l'appelle Bibi. En ce monde, il existe des pégreleux qui sont nés pour balayer le trottoir, d'autres pour vendre des bananes et d'autres encore pour manipuler des sulfateuses à répétition. Cela fait une paye quand, ce qui me concerne, partout où je passe, la nature se transforme en cimetière. Les présentations sont faites, le ton est donné, vous aurez reconnu San Antonio, le plus modeste des commissaires, et dans son ombre, le romancier Frédéric Dard, à qui l'on doit cette réjouissante saga policière. Quand le jeune Frédéric écrit ses lignes en 1949, il n'a que 28 ans. Ce préambule, plein de verve, ouvre les deux premières aventures du commissaire, rassemblées sous un même titre, « Réglez-lui son compte ». Les ventes de ce premier volume s'avèrent franchement médiocres, pourtant le jeune auteur s'accroche, et il fait bien. En quelques années, le commissaire Abler devient un vrai phénomène littéraire. Quand il décède en l'an 2000, Frédéric Dard laisse derrière lui 175 épisodes, couronnés par un succès colossal. Il serait tout bonnement l'auteur le plus lu de ces 50 dernières années.
8h15. Tiens, foutre-moi des grosses matinées.
On retrouve quelques péchés mignons d'un épisode à l'autre de San Antonio. De jolies filles, de la bonne chair et surtout des seconds rôles hauts en couleur.
Mais enfin, monsieur, je vous en prie. Monsieur ne reçoit jamais si tôt le matin.
Ben, ce matin, monsieur, non, mais... il va recevoir. Oui. Même recevoir mon pied dans mais les enfin... fesses, c'est que ça va pas comme je veux.
Mais enfin, permettez.
Je pense d'abord à Berrurier, bien sûr. L'acolyte truculent de San Antonio qui volerait presque la vedette au commissaire. Mais derrière l'humour et la nonchalance affichée, il y a un vrai travail de style chez Frédéric Dard. Le modèle avoué, c'est Céline. Le programme, l'invention d'une langue nouvelle, rien de moins. Paris tenu, avec cette gouaille truffée de bons mots.
Monsieur est peut-être dans son bain.
Dans son bain. Faut-il qu'il y ait des gens sales.
Autant vous dire qu'on se réjouit de la réédition de la saga complète dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont. Je vous propose ce soir de rendre justice au premier épisode de la série « Réglez-lui son compte ». Dans ce polar à l'italienne, Beru n'a pas encore fait son apparition, mais l'humour et l'invention sont déjà au rendez-vous. Après les présentations d'usage, place donc à l'enquête. Mettons le cap sur Turin pour commencer et découvrons l'affaire confiée à notre commissaire. La mission s'avère corsée. Une bande organisée a dérobé à Paris les plans d'une nouvelle utilisation de l'énergie atomique. D'après les services spéciaux français, les gangsters désormais établis en Italie sont sur le point de vendre ces informations à des puissances étrangères. On confie l'épineuse affaire à San Antonio. Avant de gagner Rome pour y traquer les coupables, notre commissaire profite d'une escale d'un soir à Turin. Mais la Dolce Vita ne dure pas longtemps. Connaissez-vous Turin ? Moi, je vous le dis, c'est une ville pépère, tirée au cordeau, propre et nette, où toutes les rues sont bordées d'arcades. C'est samedi. Il y a du populo à toutes les terrasses de café. Je m'installe à celle du Grand Café Piémontais, en face de la gare. Il y a là, en plein air, un orchestre de type en habit, qui joue des grands airs d'opéra et des valses de Strauss. Je commande un Martini Bianco. Sur ces entrefaites, voilà une môme qui s'amène près de l'orchestre, une vraie. Si vous n'avez jamais entendu chanter l'air de la mer calmée de la Signora Butterfly, par la plus belle voix d'Italie, vous pouvez d'ores et déjà demander votre passeport à la préfecture. Je n'ai jamais entendu un timbre pareil. Quand elle a fini, ma chanteuse à la voix d'or entame la mer de Trenet, ce qui prouve qu'elle est éclectique et qu'elle a un penchant pour la marine. Machinalement, je regarde la foule extasiée et je fronce les sourcils. À deux pas de moi, j'aperçois un épouvantail de 2 mètres qui passe aussi inaperçu qu'une auto de pompier dans la vitrine d'un marchand de couronnes mortuaires. Il a la physionomie d'un type qui a reçu le contenu d'une benne basculante sur la trompette, des yeux de gorée lubriques et le sourire d'un bonhomme qui vient d'être guéri de la constipation par les petites pilules Toucan. Son nom me revient, Takaba. Il a travaillé longtemps en Amérique et il s'est évadé d'un pénitencier 2 jours avant de passer à la grande friture. Au moment où mes yeux se posent sur lui, le Mexicain détourne la tête et voilà que je sursaute et que je ne prête pas plus attention à ma belle chanteuse que s'il s'agissait d'une marchande de poissons proposant sa camelote. Quelque chose me dit que ce n'est pas par hasard que ce gorille se trouve sur mon chemin. Est-ce que quelqu'un se douterait de mon voyage en Italie et des raisons de ce voyage? Ça alors, ce serait le bouquet. Je règle ma consommation et je me fais la paire. La musique, c'est bien joli, mais comme je suis pas pressé d'aller apprécier celle des anges, je préfère me rendre compte de certaines choses importantes. Le plus important pour l'instant consiste à m'intéresser aux agissements de Takaba. Un orage se déclenche brusquement. Ce n'est pas grave, mais je décide néanmoins de repasser à mon hôtel afin d'y prendre la chouette gabardine que Félicie, ma brave femme de mer, m'a offerte pour mon anniversaire. C'est un imper d'officier américain couleur cacadois avec des épaulettes et des boutons, tout ce qu'il y a de marrant. Je me McDonald's sous les arcades en reluquant les magasins. Je me précipite dans un tabaccio et j'achète une boîte de cigari. Je ne sais pas si vous avez assez de jugeote pour vous en apercevoir, mais je me mets à apprendre l'italo-mouche à toute vitesse. En sortant du bureau de tabac, je jette sur le cours un de ces coups d'œil en lance-flamme dont j'ai le secret et je découvre ma bouille de pinceau usagée dans les parages. Cet affreux Takaba ne me perd pas de vue. Pourtant, n'allez pas croire que j'ai les jetons. C'est pas une machine à distribuer des bouts de plomb comme le Mexicain qui fera perdre de sa superbe à San Antonio. Je me dis que 8h moins le quart est une bonne heure pour s'empiffrer des spaghettis. Je choisis un restaurant sympathique et je m'installe à une table au fond de la salle après avoir accroché mon imperméable et mon chapeau au porte-manteau. Je continue à reluquer les chalons. Le maître d'hôtel s'approche de moi, je commande des spaghettis et des rognons à la milanaise. Pour l'instant, Takaba a disparu. Peut-être que ça lui a donné faim de me voir lire le menu et qu'il est allé s'acheter un sandwich. Quoi qu'il en soit, je m'expédie mes spaghettis franco de porc. Félicie m'ayant toujours enseigné que se remplir convenablement l'estomac est une des plus belles obligations humaines. Je ne me lasse pas de contempler le va-et-vient, tous ces visages, toutes ces nippes colorées composant une sarabande qui, la fatigue du voyage aidant, m'envoûte littéralement. Tout à coup, je crois avoir une hallucination. Mes yeux sont posés sur un type qui sort du restaurant d'un air pressé. Or, chose prodigieuse, j'ai l'impression que le type en question, c'est moi. Je réalise qu'une crème de salopard a tout bonnement fauché mon imperméable et mon chapeau. Je renverse ma chaise et je bondis dehors, suivi par le maître d'hôtel qui me poursuit en brandissant un papelard et en glapissant « Il conto, il conto !» Le voleur s'est aperçu que je jouais à police secours, aussi s'est-il mis à courir. Il connaît le patelin. Il attrape des rues mal éclairées, traverse les carrefours au plus fort de la circulation, s'esbine derrière les arcades, c'est un fortiche. Au bout d'une rue, je pousse un rugissement. Le rascal a disparu. Je me suis laissé posséder comme une rosière un jour de 14 juillet. Soudain, je dresse l'oreille. Un bruit très particulier vient de résonner dans le voisinage. Ce genre de bruit-là, je vous le garantis, c'est un coup de pistolet à canon scié, sans aucun doute. En rasant les murs, je me dirige dans la direction d'où vient la détonation. Je parcours quelques mètres, ainsi, dans l'ombre, et je découvre brusquement, sous un porche, le corps d'un zigoto. Je sors ma lampe électrique stylo, et j'en dirige le faisceau sur le type étendu par terre. Je le reconnais, c'est mon voleur. Il est mort comme il n'est pas possible de l'être. Une balle en pleine poire. La course-poursuite ne fait que commencer. San Antonio comprend vite la situation. Le voleur d'imperméable a fait les frais d'une balle qui lui était destinée. Mais puisque Takaba croit l'avoir abattu, San Antonio possède désormais l'avantage. Voyons alors à quoi ressemble la revanche de notre commissaire. Il y a un train pour Rome dans une heure, et je suis persuadé que mon tueur va le prendre. Question de déduction et de psychologie. Quel est le souci dominant d'un gars qui vient d'en étendre un autre? Se planquer en mettant le plus grand nombre de kilomètres entre le cadavre et lui. Vous l'avez deviné, quelques minutes plus tard, je suis installé dans un wagon couchette en route pour Rome. Je sonne le préposé au wagon et je l'évalue. Ce lapin-là ne doit pas être bête du tout. C'est un de ces piafs qui s'entendent comme pas un pour accrocher des pourboires. Écoute, Kiki, je lui dis. Voilà ce que j'attends de toi. J'ai aperçu sur le quai de départ un vieux copain à moi. Dans la bousculade, je l'ai perdu de vue. Tout ce que je sais, c'est qu'il se trouve dans un toboggan et qu'il y a 500 lire pour ta pomme si tu me le trouves. Là-dessus, je lui fais le portrait de Takaba. Je lui recommande de ne rien lui dire parce que je veux lui faire comme qui dirait une petite surprise. 5 minutes plus tard, le garçon m'annonce que mon ami se trouve dans le wagon précédent, compartiment 9. Kiki, lui dis-je, voilà l'osier promis. Et j'y ajoute 100 balles de mieux parce que tu vas me prêter ton képi pour un moment. Il se décoiffe en se marrant parce qu'il devine que je vais jouer un bon tour à ce vieux copain de Takaba. Et il se met pas trop de doigts dans l'œil, car pour un bon tour, ça va en être un. Sa galure me va à ravir. Personne en vue dans le couloir de Takaba, j'attrape mon pistolet, c'est un Luger, un bon copain qui ne rechigne jamais au boulot. Je frappe 2 petits coups secs. Controllore, fais-je avec beaucoup d'assurance. J'entends tirer la targette, la porte s'entrouvre, je sens le regard de Takaba posé sur moi. Pour plus de sécurité, je me tiens de profil. Je répète « Controllore » d'un ton obstiné. Docilement, Takaba tourne les talons pour attraper sa veste au fond du compartiment. Je ne perds pas une seconde. Saisissant mon arme par le canon, je lui allonge un vieux coup de crosse sur le bocal. Le Mexicain pousse un petit gloussement comme s'il avait avalé un noyau de cerise et il répand ses 120 kilos sur le tapis. Je suis obligé de le tirer un peu par les pieds pour pouvoir refermer la porte. Jusqu'ici, ça va très bien. Dès que j'ai fouillé les fringues de mon tueur et que j'ai raflé son pistolet, j'entreprends de le ranimer. Il ne faut pas moins de 3 verres d'eau violemment projetés sur son visage pour qu'il se décide à ouvrir ses jolis yeux. Ça t'embouche un coin, hein? Tu croyais bien m'avoir descendu. Mais je suis un gars aussi coriace que Raspoutine. Et maintenant, c'est bien simple. Tu vas tout bonnement me donner quelques tuyaux sur le gang qui t'emploie. Si tu comptes là-dessus, poulet, rétorque cette carne, t'as meilleur compte d'attendre que le pape fasse le tour de France. Je me force à sourire afin de le mettre en confiance. Et soudain, je lui décroche un coup de pied à la pointe du menton. Il retombe illico dans les pommes. Je m'empare des sangles de sa valise et les utilise pour lui lier les jambes et les mains. De cette façon, je vais pouvoir m'expliquer une bonne fois pour toutes avec ce gorille. J'allume une cigarette et j'attends qu'il récupère sa lucidité, ce qui ne tarde pas trop. « Bon, lui fais-je posément. Maintenant, j'aurai mauvaise grâce à te cacher que je m'occupe de l'affaire des plans volés. Tu réponds à mes questions et je te fais coffrer en garde de gêne pour vol de mes bagages. » Ou tu la fermes et j'emploie les grands moyens. » Il tourne la tête vers moi, me regarde dans le blanc des yeux et me crache au visage. Il n'en faut pas davantage pour me décider. Je lui attrape le petit doigt de la main gauche et je le lui casse en le renversant. Le Takaba pousse un cri qui doit être perçu depuis le détroit de Bering. Aussitôt, le garçon wagon frappe à la porte. Je lui ouvre en prenant soin de masquer Takaba qui se tord de douleur. Je fais mine d'être ivre et j'entonne le grenadier des Flandres afin de couvrir les gémissements de ma victime. « Whisky !» hurlai-je. Le zigoto revient au bout d'un instant avec une bouteille. « Tiens, » dis-je au gorille, « colle-t'en une rasade, ça va te remonter le moral. » Mon loustique prend le flacon. Je le regarde pinter avec satisfaction quand ses nénuphars enlèvent brusquement la bouteille de ses lèvres et me la balance en pleine cafetière. J'ai pas le temps de récupérer qu'il est déjà sur moi. Il s'arrange de façon à me passer la sangle entravant ses poignets autour du cou. Et comment il sert? Mon sang se bloque dans ma tête, j'étouffe. Cette fois, j'ai perdu connaissance. Sapristi, mes doigts viennent de se souvenir qui tient l'infameux Luger. Je passe ma main derrière mon dos, je tâte maladroitement du bout de mon pistolet le bit de Takaba et je presse la détente. Une bouffée d'air bondit dans ma gorge meurtrie. Ouf, je récupère et me retourne pour voir où en est Takaba. Croyez-moi, il n'est pas brillant. Tu m'as eu, poulet, hoquette-t-il. Mets-moi une dans le citron, je souffre trop. « Écoute, lui dis-je, je peux encore faire ça pour toi. Seulement sois gentil, donne-moi une indication au sujet de la bande. »« Tu peux pas piger, j'ai le pépin pour elle. »« Qui, elle ?»« Else, le numéro 1, elle t'aura, tout San Antonio que tu es. » Soudain, son visage se crispe et ses yeux deviennent fixes. Pas besoin d'une seconde balle, Takaba vient de lâcher la rampe. Je rengaine mon feu et je sors. Dans le couloir, je croise le garçon de train et lui restitue son képi d'amiral. « On a bien rigolé !»
J'avais écrit une nouvelle pour un journal qui s'appelait, un hebdomadaire qui s'appelait Samedi Soir, Paris.
Frédéric Dard.
Et mon héros, je l'avais intitulé San Antonio. Je voulais donner à mon héros un nom américain. Alors j'ai pris un atlas des États-Unis et puis j'ai fait comme ça, j'ai mis mon doigt et je suis tombé sur le seul nom qui soit espagnol sur le territoire américain, c'est San Antonio. Alors j'ai failli dire, ah ben non, et puis je me suis dit non, j'ai décidé que où je mettrais le doigt, je garderai le nom.
Je suis le seul, l'unique, le grand San Antonio. Mes prouesses héroïques font le bonheur des journaux. Si elles sont impudiques et pleines de quiproquos, ma marque de fabrique est écrite en mots d'argot. Je suis tantôt cynique et tantôt rigolo. C'est là toute la technique de votre San Antonio. Avant moi, la flicaille ne jouait pas les Apollons. Leur tronche d'épouvantail filait le trac sirogueunon. Maintenant, c'est autre chose, s'en a tout changé. Les poulets sentent la rose, à l'exception de Berrurier.
Il est le seul, l'unique, le grand San Antonio.
Oh.
Si elles sont impudiques et pleines de quiproquos, sa marque de fabrique est écrite en mots d'argot.
Je veux.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Alors mes biches, ça va mieux, oui.
Après ce petit tour de chauffe, place aux choses sérieuses. À son arrivée à Rome, San Antonio rencontre le chef de la surveillance du territoire qui collabore sur le dossier. Informé de l'avancée de l'enquête, le chef italien présente à notre commissaire son meilleur indicateur, Luigi Sorrenti. Celui-ci confie à San Antonio l'adresse d'un café où il lui semble avoir aperçu le fameux Tacaba la semaine précédente. Une piste se dessine. Je ne me caille pas trop le sang pour dénicher le café où Luigi prétend avoir aperçu Tacaba. C'est un petit coin d'apparence honnête. Il n'y a personne en ce début d'après-midi, excepté le patron. Une espèce d'hippopotame plus gras qu'une soupe au fromage et qui dort sur son ventre comme sur un édredon. J'ai beau tousser, il ne se réveille pas. Il doit avoir des aptitudes solides pour la sieste. Je me décide à tousser un bon coup. Hep, signore. Mais il ne bronche pas. Je m'apprête à le héler à nouveau lorsque j'aperçois quelque chose qui dépasse de sa veste en haut du dos. Ce quelque chose n'est autre que le manche d'un poignard. Je touche le front du bistroquet, il est froid comme une glace à la vanille. Je pousse le juron le plus volumineux qu'on a jamais balancé à 500 mètres du Vatican. Je passe dans l'arrière-salle, personne. Le mieux est de prévenir la police, mais il me vient une autre idée. Je sors sur le trottoir et je fais signe à un gamin. Réunissant tout ce que je possède d'italien, j'essaie de lui expliquer ce que j'attends et lui tend une carte de visite. J'y ai inscrit l'adresse de Luigi Sorrenti, accompagné de cette simple phrase « Venez presto au café que vous m'avez indiqué ce matin ». En attendant l'arrivée de Sorrenti, je retourne dans l'arrière-salle et me mets en devoir de perquisitionner. Rien de louche. Je m'apprête à abandonner mes recherches lorsque j'entends un bruit de pas dans le bistrot. Je jette un coup d'œil et... Pardon, qu'est-ce que je vois ? La môme la plus ravissante qui se soit jamais bagnaudée sous le soleil d'Italie. Elle est mince, bien moulée et porte une jupe blanche et un sweat. Ses cheveux blonds lui tombent jusqu'au milieu du dos. Elle ne regarde même pas le fameux dormeur. Elle se dirige vers le comptoir d'un air déterminé et ouvre le tiroir-caisse. Je m'aperçois très vite que ce n'est pas le pognon qui l'intéresse car elle le sort par poignée et le balance à ses pieds. Elle extrait une petite boîte en fer et s'apprête à l'ouvrir. Comme le contenu de la dite boîte m'intéresse également, je décide d'intervenir. Hello beauté, si c'est du feu que vous cherchez, j'ai des allumettes. Elle sursaute et se retourne. Qui êtes-vous ? Questionne-t-elle. Écoutez, ma merveille, peut-être que je suis le roi de Yougoslavie et peut-être bien que je suis un gars de Belleville. Ça n'a pas grande importance. Ce qui importe, c'est qui vous êtes, vous. Et ce que vous venez fiche derrière le comptoir de feu ce brave homme. Elle ne répond rien. Cette gamine possède des yeux pervenches et elle s'en sert pour admirer mon anatomie. C'est entendu, lui dis-je, je ressemble à Jean Gabin, mais ce n'est pas une raison pour me dévorer de cette façon. Vous savez, je suis pas un type tellement comestible, au fond. Elle ne répond toujours rien. Nous demeurons chacun d'un côté du comptoir à nous observer. Le silence est tel qu'on entendrait sauter un bouton de jartel dans un cinéma. Soudain, il se produit quelque chose et j'avoue que j'en reste baba. Trois coups de feu claquent, bien posément, pour qu'on ait le temps de les compter. La momette blonde a biché un canon, je ne sais pas où, et elle me distribue sa quincaillerie à travers le comptoir avec un beau sang-froid. Ses yeux ne sillent pas. Elle a l'air absolument ravie. Heureusement pour le bide de San Antonio, la môme, d'où elle se tient, ne se rend pas compte de la position exacte du cadavre. Si bien que les trois balles ont été interceptées par le bistroquet qui, décidément, est de plus en plus mort. Chez moi, l'instinct commande plus vite que la raison. Mon visage se convulse comme sous le coup d'une grosse souffrance. Je pousse un hoquet d'agonie, tout ce qu'il y a de bien imité, et je m'écroule d'une façon spectaculaire. Si le directeur de la Comédie Française me voyait, il m'embaucherait tout de suite. J'entends la môme qui ricane. Elle rengaine son feu dans son sac à main et passe à côté de moi. Elle ne paraît pas le moins du monde incommodée par ces deux cadavres superposés. C'est le genre de fillette qui se tape un sandwich assise sur le cercueil de son grand-père. Elle pousse même le sadisme jusqu'à me décrocher un coup de tatane dans les côtes. Prompt comme la foudre, je lui attrape le pied et la fais basculer à mes côtés. D'un coup de genou, j'éloigne son sac à main. Je la maintiens plaquée solidement contre le parquet. « Alors, ma chérie, lui dis-je, à mon tour de donner les cartes, que dis-tu de ça ?» J'entends bouger le rideau de perles à l'entrée. Je pense, tiens, voilà sans doute Sorrenti. Je ne vais pas plus loin dans mes estimations car j'ai l'impression que mon crâne vole en éclats. Moi, je vous le garantis, le type qui vient de m'administrer ce coup de matraque peut se faire signer un contrat de travail à la Villette. Je lâche tout et je vais me promener dans le cirage.
D'où vous vient, Frédéric Tard, cette chance des mots, ce bonheur des mots ?
Mais d'un amour de ma langue. Et si je la malmène, c'est parce que je l'aime. C'est parce que, je sais pas, je suis tellement bien avec elle. Je suis tellement bien que j'ai envie de lui faire des gosses. Vous voyez ?
Et vous alors, lui en faites.
Et je lui en fais.
Qu'est-ce que vous inventez comme mot ?
Elle est toujours en gésine avec moi d'enfant nouveau. D'aucuns diront que je la massacre. Oui, peut-être, mais enfin, c'est un massacre qui ne va pas loin, qui n'engage que moi. Mais je pense qu'on devrait se laisser aller un peu. On devrait faire des dérapages avec le français. On ne devrait pas avoir peur de la malmener.
C'est-à-dire, il faut parler avec le cœur.
Mais oui, il y a tellement de gens qui la préservent, cette langue, qui la fignolent, qui la gardent telle qu'elle, qui la momifient. Ils l'ont entortillée de bandelettes, ils ne permettent pas qu'on lui donne un peu d'air en écartant les bandelettes. Elle a besoin de respirer, mince.
Voilà notre commissaire aux mains de l'ennemi. Que va-t-il inventer pour s'en sortir ? À son réveil, San Antonio se trouve sur un yacht, en pleine mer. À peine a-t-il repris ses esprits que deux colosses viennent le chercher dans sa cabine. Sale temps pour le commissaire. Une brise odorante souffle du large. Le pont du yacht est tout blanc comme une première communiante. Faut voir comme le soleil se régale là-dessus. Flanqué de mes gardes du corps, je file sur l'arrière. Et là, j'aperçois deux personnes confortablement installées dans des fauteuils à bascule. Une femme et un homme. La femme, je la reconnais, c'est la môme blonde qui voulait m'assaisonner. Quant à l'homme, je ne l'ai jamais rencontré. « Pietro, » dit la femme à un de mes convoyeurs, « adosse le signore aux mains. Ramène-lui les mains derrière le dos et maintiens-les attachées au moyen de ceci. » Ce disant, elle lui lance des menottes. Deux minutes plus tard, je suis solidement arrimé devant le couple. « Alors, Bruno ?» attaque la môme. « Je crois que vous aviez une petite chose à demander au commissaire. »« J'en ai même plusieurs, » déclare le beau gosse. « Je voudrais savoir comment vous avez été amené en Italie pour enquêter et ce qu'est devenu Takaba. » Je réfléchis un brin, je suis soulagé. Les plans ne sont pas encore négociés puisque le gang désire savoir comment il a pu être éventé en Italie. Si je réponds face de Pékinois, qu'est-ce que tu m'offres en échange ? Si tu me réponds correctement, on te balancera la flotte avec une bouée. Si tu fais la mauvaise tête, je te ferai tellement de trucs savants que tu ne pardonneras jamais à ta mère t'avoir mis au monde. Mon pardon, mais le marché ne me convient pas. Il n'est pas réglo. N'est-ce pas, Hels ? C'est une idée à moi. J'ai balancé ce prénom au petit bonheur. Depuis que j'ai vu la fille blonde, je suppose que c'est d'elle dont Takaba rêvait. Je ne me suis pas trompé, elle sursaute et renverse son orangeade. « Il me connaît ?» s'exclame-t-elle. Alors je m'offre une bonne dose de culot. « Bah et comment, ma cocotte ? J'en sais long sur toi et je suis pas le seul. »« Bruno, » fait-elle, « je voudrais te dire deux mots en particulier. » Docilement, il la suit à l'avant du bateau. Je regarde autour de moi, personne. C'est le moment d'essayer un petit coup. Je tire sur la chaîne, ma main décrit des mouvements de reptation, elle doit être toute bleue, je sens mes muscles qui se ratatinent et mes jointures qui craquent. Je continue à forcer et ma paluche se dégage. Je fonce en avant. En deux pas, je dégringole l'escalier de bois. Soudain, mon regard se pose sur un aspirateur abandonné dans un coin. Il me vient une batte idée. J'ôte ma veste et l'entortille après l'aspirateur. Puis je me précipite à un hublot, l'ouvre et flanque l'appareil au bouillon. Je pousse un cri dans le style du Jules qui ne sait pas nager, qui a la trouille. Un instant, ma veste freine l'engloutissement de l'appareil. On jurerait que c'est bien un homme qu'il s'agit. Du fond, des exclamations me parviennent, j'entends même des coups de feu. Le truc a réussi. L'essentiel est maintenant que je trouve une planque. Je pousse une porte au petit bonheur, et la chance continue de me sourire, car il n'y a personne dans cette pièce. Qu'est-ce que vous pariez que voilà le doux nid de la môme Else ? Un examen superficiel m'indique que le ménage vient d'être fait. Donc, si je trouve un petit coin peinard où me dissimuler, je ne crains pas d'être emmouscaillé avant la nuit. Sous la couchette, je trouve un placard, je l'ouvre, tout est au poil. Avant de me glisser dans cette planque, je fais un tour d'horizon rapide. Je déniche dans un bar miniature une boîte de nougat et une bouteille de cognac. Je décide d'adopter ces amusettes. J'ouvre le tiroir de la coiffeuse et me trouve nez à nez avec un pistolet de dame à crosse de nacre. Je vérifie le chargeur. Il contient 6 balles. Je l'empoche sans hésiter. Maintenant, je me sens en forme pour tenir un siège. Le temps que je passe à roupiller, je ne saurais vous le préciser. Il ne doit pas être loin de minuit quand j'entends s'ouvrir la porte de la cabine. Je reconnais les voix d'Else et de Bruno. « Vois-tu, dit-elle, ce qui a gâché ma journée, c'est de n'avoir pu crever les yeux à ce flic. »« Bast !» résonne l'autre. « Les poissons l'ont fait pour toi. »« Tu es certain qu'il s'est noyé ?»« Je l'ai vu de mes yeux couler à pic. » Et puis comme prime, je lui ai mis quelques balles dans le corps. « Ne t'inquiète pas, on peut en parler à la parfaite. »« Oui, mais il y a un autre contretemps. »« Et lequel ?»« Tu le sais bien, le code. » »« Bast, nous finirons certainement par lui remettre la main dessus. » À la façon dont il parle, ce gars-là doit avoir autre chose en tête que la question des plans. Et je crois comprendre quoi. La preuve que je ne me trompe pas, c'est que j'entends un bruit de baiser. Mais décidément, Else n'est pas en forme ce soir. Allez, file, ordonne-t-elle durement à Bruno. Ce Bruno est une pauvre cloche. Et s'il croit savoir s'y prendre avec le beau sexe, il se gourre, vilain. Il marmonne quelques paroles que je perçois mal et s'éloigne. J'entends claquer la porte. Else donne un tour de clé à la serrure. Maintenant, nous sommes entre nous.
Alors, toujours sur les gros coups, ma belle ? Attention. Avec moi, les conneries, ça va une fois, deux fois, bonjour les dégâts.
La chance sourit aux audacieux. San Antonio récupère l'avantage. Surprenant Else dans son sommeil, le commissaire parvient à lui extorquer les fameux plans secrets. Il laisse à bord la belle ligotée et gagne le rivage à la nage. Débarqué à Naples en pleine nuit, San Antonio sonne alors chez le consul de France pour solliciter sa protection. Par chance, ce dernier lui réserve un accueil royal. Notre commissaire transmet les bonnes nouvelles à ses supérieurs et s'offre une nuit réparatrice chez son hôte. Mais le répit est de courte durée. Ce sont les oiseaux qui me réveillent. Par la baie vitrée, je découvre un paysage de rêve. Naples, flamboyante sous le soleil, paresseusement allongée en arc de cercle. Je descends à la salle à manger. Il y a là mon hôte, monsieur le consul Gaëtan Pival de Roubille, et sa femme. Je réprime un sifflement d'admiration car la personne qui me tend la main ne s'est pas planquée le jour où on a distribué la beauté. Elle est brune avec des yeux bleu clair et le plus chouette sourire qui ait jamais paré une paire de lèvres. « Ainsi, commissaire, fait-elle, grâce à vous, nous vivons un roman d'aventure. » J'esquisse une petite moue modeste, dans le genre « c'est la moindre des choses ». Comme j'achève ma tasse de café, le domestique apporte la réponse à mon câble. Voici la teneur du télégramme. « Félicitations à commissaire San Antonio pour diligence et succès. Stop. Prière, remettre document à ambassadeur de France à Rome qui fera rentrer par valise diplomatique. Stop. Continuer investigation pour récupérer le code. Stop. Très important parce que code peut fournir indications sur travaux. Stop. Bonne chance, stop, terminé. Moi qui croyais pouvoir regagner Paris, je suis marron. Repris par le souci des convenances, j'explique à mes hôtes de quoi il s'agit. Je vous aiderai de mon mieux, affirme le consul. Quels sont vos projets ? Eh bien, filer à Rome afin de me débarrasser du petit colis que vous savez et ensuite recommencer la lutte. Nous n'avons pas affaire à des enfants de troupe et ces crapules vont tenter l'impossible pour récupérer les plans. Le couple paraît soucieux. Évidemment, ces bons bourgeois ne sont pas habitués à vivre des drames de ce genre. La femme, surtout, est plus qu'excitée. « J'ai un plan !» s'écrie-t-elle soudain. Entre moi et moi, je me fais remarquer que des plans, il y en a beaucoup trop dans cette histoire. Et si les petites femmes en mal d'aventure se mettent à en échafauder, alors je vais finir par démissionner. Après quoi, je me consacrerai à la vente du lapin sauteur devant la Samaritaine. Pourtant, la petite dame est jolie, à un point excessif. Et j'ai toujours tendance à ouvrir mes targettes quand une belle gosse parle. Voilà ce qu'elle dit. « Les gangsters pensent que vous avez ce qu'ils cherchent sur vous, et vont donc essayer de le récupérer. Je vois une tactique à adopter. Le chauffeur vous conduira à la gare, Gaëtan et vous. Vous y prendrez votre billet et monterez dans le train. Ce sera pour vous l'enfance de l'art que d'en descendre sans vous faire remarquer au moment où il partira. Vous quitterez la gare par une sortie de côté, tandis que pour donner le change, Gaëtan continuera sur Rome. Moi, je serai avec la voiture dans les parages. En nous relayant, nous arriverons à Rome avant le train. Ma décision est adoptée. Soit, j'accepte. » La proposition de Madame Gaëtan Truchemuche, je ne sais plus quoi, tombe à pic car au moment où nous quittons la crèche du consul dans sa cime K8, j'aperçois une bagnole qui décolle du trottoir et se met dans notre sillage. Je crois reconnaître assis dans le fond Bruno, le beau ténébreux de la Môme Health. Parvenu à la gare, nous filons directement dans notre compartiment qui est vide. Il y a un autre train sur la voie voisine. Tout se passe comme prévu. J'enjambe la fenêtre et je me laisse glisser entre les deux trains. Après quoi, je me coiffe d'une casquette en toile verte dont je me suis muni. Ça n'a l'air de rien, mais ça suffit à me rendre méconnaissable. Je sors de la gare et j'aperçois la femme de mon ami le consul embusquée dans une petite rue au volant d'une Talbot crème et rouge. « Alors, mon idée était bonne, monsieur San Antonio ?»« Magistrale, madame Pival de... » Elle appuie sur le démarreur. « Ne vous tracassez pas, » fait-elle d'un air faussement innocent. « Mon prénom, c'est Janine. J'ai une grosse touche avec cette petite baronne. » On a beau être un solide républicain et avoir des aïeux qui ont braillé la carmagnole, ça flatte. Si je ne trimballais pas des documents d'une terrible importance et si je n'avais pas le culte de la reconnaissance, je sens que la tête du consul ressemblerait d'ici peu à un trophée de chasse. La bagnole n'a pas été achetée chez un antiquaire. Pour un bolide, c'en est un. Nous tapons le 120 jusqu'à Rome. Sur le perron de l'ambassade, un secrétaire s'avance vers nous. Il nous introduit dans une vaste pièce où derrière un monumental bureau se tient un homme chétif et nerveux. Il a l'air aussi joyeux qu'une paire de gants noirs et fume pour user sa nervosité. « C'est abominable !» balbutie-t-il en nous apercevant. J'avoue que cet accueil nous démonte un peu. Il s'approche de Janine et lui prend la main. « Mon enfant, » murmure-t-il. « Ma pauvre enfant, c'est horrible !» Du coup, je pige. Vous avez déjà dû remarquer que je ne suis pas de ces gens auxquels il faut faire des dessins. « Le consul ? » m'exclamai-je. L'ambassadeur baisse la tête. On m'a prévenu tout à l'heure par téléphone. Un cheminot l'a trouvé sur le ballast. Il avait un poignard dans la poitrine. S'agit-il d'un nouveau coup d'Els et de Bruno ? Alors même qu'il apprend l'assassinat du consul, le commissaire découvre que la séduisante Janine, qu'il prenait pour son épouse, est en réalité sa sœur. Tous les espoirs sont permis. Mais pour l'heure, San Antonio a du pain sur la planche. Attraper l'auteur du crime et mettre la main sur les fameux codes réclamés par ses supérieurs. Convaincu que les deux affaires convergent vers la sinistre troupe d'Els, le commissaire a de nouveau recours à Sorrenti, l'indicateur hors pair pour retrouver la trace du gang. Celui-ci lui conseille de se poster au Capitello, un bar de nuit de Rome. Le soir même de la mort du consul, voici donc notre commissaire embusqué avec Janine dans ce haut lieu nocturne. « Si je pensais que le jour de la mort de mon frère, j'irais dans un cabaret dansant, » soupire Janine. « Je commande du champagne, faut ce qu'il faut. » Je bois les mémoires du pauvre consul, d'autant plus volontiers que c'est un brave garçon et que le champagne est fameux. Nous sommes là depuis un moment lorsque mon système circulatoire se paralyse. Voici que Bruno, le bras droit d'Els, fait son entrée. Décidément, les tuyaux de Sorrenti ne sont pas percés. Si un jour je deviens dictateur, sûr et certain que je l'embaucherai comme chef de ma Gestapo. Je me dissimule de mon mieux et je réfléchis. Tout à coup, je torche ma flûte et je prends dans la mienne la main que Janine laisse traîner sur la nappe. Apercevez-vous ce bel effet brun ? Je le vois très bien. C'est l'assassin de Gaëtan. Elle porte les mains à sa bouche et devient livide. Je lui colle vite son verre dans les doigts et lui conseille de le vider. Ça se passe très bien. Maintenant, ma chère amie, c'est à vous de grimper sur le plateau. La réussite de mon plan repose sur vous. Vous allez vous transformer en vampe et en ondulant des hanches, vous approchez de lui. Vous lui demanderez s'il n'a pas 10 000 lire à mettre dans le sac à main d'une pépée, à même de lui refiler des tuyaux sur un flic français et sur l'enveloppe qui trimballe. Surtout, ayez l'air cupide, ça le mettra en confiance. Lorsqu'il commencera à marcher, dites-lui que vous seriez mieux dans un petit salon pour discutailler. À ce moment-là, vous me l'amenez. Compris ? Je la regarde, elle est frémissante. Compris. Le gérant me conduit dans un vestibule qui fait le tour de l'établissement. Une kyrielle de portes s'ouvre dans ce couloir. Il en pousse une, j'entre et inspecte les lieux. C'est un petit coin peinard qui ressemble à tous les petits salons du monde. Je repousse la porte et tire un fauteuil juste derrière, de façon qu'en pénétrant dans le salon, on ne puisse pas me voir tout de suite. Je sors l'arme que m'a envoyée Sorrenti. Ça n'a pas l'air mauvaise. À ce moment, j'entends un bruit de pas dans le couloir. Jeannine pénètre dans le salon, suivie de Bruno. « Coucou, beau bras !» lui dis-je. Il se retourne et porte la main à sa poche. « Pas de ça, ordonnai-je. Lève bien haut tes pattes. Jeannine, voulez-vous enlever le feu de ce dandy ?»« Maintenant, dis-je à Bruno, j'aimerais que tu me parles de la question du code. Je sais que vous ne l'avez plus, mais j'aimerais savoir qui vous l'a barboté. » Il garde le silence. « Je ne me fâche pas. Si tu ne réponds pas d'ici 10 secondes, tu racleras le tapis avec tes ongles. »«
Si vous permettez, fait Jeannine, ce sera moi qui tirerai. »
J'oubliais de te signaler que la gracieuse personne qui te veut du bien est la sœur de feu Gaëtan Pival de Roubi, consul de France à Naples. Mon pauvre Bruno, tu es imprudent. On ne liquide pas un consul de France comme ça.
Ce n'est pas moi, j'ai mis le beau gosse.
Mon œil, je t'ai vu lorsque tu nous suivais à la gare.
Mais je n'ai pas pris le train, je vous le jure. Nous avions juste voulu nous assurer que vous preniez bien le train. Tenter un coup, ça nous paraissait trop risqué. Hels m'attendait à l'aéroport, nous avons pris l'avion. C'est à la sortie de la gare de Rome que nous pensions vous kidnapper, le consul et vous.
Ébranlé, je me tais en évitant le regard déçu de Jeannine. Je me dis que les affirmations du beau gosse sont peut-être fausses, mais mon vieux flair me dit qu'elles sont vraies. Dans ce cas alors, qui a commis le meurtre? Un criminel travaillant pour son propre compte? C'est improbable. Alors je suis bien forcé de songer sérieusement au gars qui possède le code. Pour que les plans aient une valeur, il faut le code. Mais le code sans les plans, c'est une brosse à dents sans poils. Donc celui qui a été assez dégourdi pour s'approprier une partie des documents doit être assez gonflé pour buter un type afin d'avoir l'autre partie. Conclusion, j'ai de plus en plus envie de faire connaissance avec le détenteur du code. Et si San Antonio le connaissait déjà, ce criminel détenteur du code? L'interrogatoire de Bruno tourne court. San Antonio et Jeannine sont bientôt surpris par Hels et ses complices. Ils s'en sortent de justesse. Dans la confusion générale, Hels, de rage, tire sur Bruno avant d'être à son tour abattu par San Antonio. Mais si le gang n'est plus, l'enquête reste ouverte. Qui a tué le consul et qui détient le fameux code? San Antonio, pour une fois, est bien tenté de se fier aux dernières paroles de Bruno et de chercher le coupable hors du gang. Sorrenti, l'informateur italien de San Antonio, a peut-être une idée sur la question. Le voici qui arrive quelques heures après le règlement de compte. Vers 23h, le portier me sonne pour m'annoncer Sorrenti. Il arrive nippé avec une rare élégance. Il entre et salue Jeannine très bas, puis il enchaîne volubile. « J'ai pu obtenir quelques indications sur les gens qui vous intéressaient. Comment cela s'est-il terminé ? Par un enterrement collectif. » Je lui raconte notre soirée, il en bave des ronds de chapeau. « Vous êtes extraordinaire. En somme, vous avez triomphé sur toute la ligne. »« Oh que non. J'ai pas encore mis la main sur le code ni sur l'assassin du consul. » Il ouvre des yeux ronds. « Mais je croyais, fit-il surpris, que Bruno avait fait le coup. » « Je le croyais également, mais il s'avère qu'il ne pouvait l'accomplir pour la raison excellente qu'il était dans l'avion Naples-Rome et non dans le train au moment où M. de Pival a été poignardé. » Il y a un silence épais comme de la mélasse. Sorrenti hausse les épaules. « En tout cas, remarque-t-il, les chances de retrouver le code me paraissent bien minces maintenant que toute la bande est anéantie, car ils ont dû les cacher soigneusement. » Je fais quelques pas dans la pièce. « Il ne l'avait pas. »« Vous êtes sûr ?»«
Certain. »«
Qu'en concluez-vous alors ?»«
Je le regarde. »«
Et vous ?»«
À vrai dire, je ne sais plus que penser. »«
Bast. Ça s'arrangera, je suis optimiste, assurai-je. Brusquement, l'éternel sourire qui voltige sur les lèvres de Sorrenti disparaît. Ce changement de physionomie a une cause, et la voici. Je tiens un pistolet dans chaque main et les deux canons sont braqués sur son estomac. Dis donc, Sorrenti, si on parlait à cœur ouvert. Jeannine pousse une exclamation de surprise. Mais, belle Rital, signore, c'est une plaisanterie, je ne comprends pas. Ah, tu ne comprends pas. Eh bien, le signor va éclairer ta lanterne, mon salopard. Dieu merci, la fée qui distribue la jugeote et l'imagination n'est pas allée au bain turc lorsque ça a été le tour du signor de recevoir sa part. Je m'approche de lui et lui colle un coup de genou dans le bas-ventre pour le faire taire et lui prouver que je suis on ne peut plus sérieux. Après quoi je fouille ce grand délabré. Dans son portefeuille de croco, je trouve le code. Et ça, mon grand.
Il y a eu une espèce de divorce entre mon enfance et ma vie d'adulte, et je pense que tout le monde est dans ce cas.
Frédéric Dard.
J'ai été frappé, brusquement, quand je me suis mis à comprendre, quand j'ai eu la connaissance, de voir que les hommes ne correspondaient pas à l'idée que je m'en faisais. Alors, au fil des ans, je me suis demandé, mais pourquoi? Et j'ai découvert que c'est parce qu'ils étaient cons, et qu'ils m'ont rendu con, moi aussi, bien sûr, dans une certaine mesure, et même peut-être dans une très grande mesure.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de... C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cet air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem. Regarde, tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orques, je joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con.
L'enquête touche à son terme, mais la verve de San Antonio vaut bien un épilogue. Les masques tombent, Sorrenti, l'indicateur de San Antonio, était trop zélé pour être honnête. San Antonio reconstitue le double jeu de l'informateur. Sorrenti a non seulement assassiné le consul, mais c'est aussi lui qui, quelques jours plus tard, a volé les codes à la bande d'Els en tuant au passage le patron du bistrot. Confondu, Sorrenti tente le tout pour le tout. Armé d'un couteau, il menace le commissaire. San Antonio ne doit sa vie sauf qu'à Jeannine, qui abat le traître juste à temps. L'épisode touche à sa fin, mais San Antonio n'est jamais en reste quand il s'agit d'interpeller son lecteur. Me revoilà en France, à Paname. Dans quelques jours, j'irai faire une visite de politesse à Jeannine, et puis j'y retournerai le lendemain et encore le lendemain jusqu'à ce qu'arrive le moment de lui exposer ma théorie sur le mimi mouillé. Je sais être tenace. Pour d'autres détails, il faudra vous reporter au prochain volume, ça suffit pour aujourd'hui. Et tâchez de ne pas être déçus, les lecteurs le sont toujours. Que ce soit drôle ou triste, que ça finisse bien ou mal, c'est une fiche humaine qu'ils ont de ne jamais être satisfaits. Enfin quoi? Comprenez que pour le prix du bouquin, mon éditeur ne peut pas vous donner une vache. Et même s'il le faisait, vous auriez encore le culot de lui demander si elle est pleine.
Je suis pas le révolté tel qu'on l'entend, je suis un vrai révolté. Je suis le révolté. C'est-à-dire que, comme un être tout entier, que ma chair est révoltée. Je suis révolté, mais je suis un révolté clairvoyant. Je suis un révolté qui voit le chemin à suivre. Je suis un révolté qui veut une solution. Je sais que je fais des choses qui sont anormales, qui sont outrancières, qui sont malvenues, qui sont imperceptibles même.
C'est de la littérature pot-au-feu ?
C'est de la littérature passe-partout, c'est de la littérature pot-au-feu, c'est de la littérature de poubelle.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Guillaume Roux a été préparée par Estelle Gap, Leila Kouroussélikoua, Perrine Malinge, Fanny Leroy et Claire Tessert.